écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Daniel Bercheux.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit donc aujourd'hui Daniel Bercheux pour son roman « Rien n'est jamais écrit d'avance » paru en janvier 2023 aux éditions Maya. Merci Daniel d'être avec nous pour la troisième fois. En effet, nous t'avions déjà reçu en décembre 2019 pour un premier roman paru en 2018 qui s'intitule « Un amour infini » et ensuite en janvier 2022 pour un second roman paru en 2020 qui s'intitule « Les rêves ne disparaissent jamais ». Mais aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est « Rien n'est jamais écrit d'avance ». Avant peut-être, face à une production active de romans, je sais que par ailleurs, tu avais aussi écrit un livre pour enfants, tu écris des slams, et puis peut-être il y a d'autres actualités dont tu pourras nous parler. Quel est le moteur pour écrire de manière aussi régulière et intense ?
Ben, le moteur, c'est avant tout l'envie d'écrire, l'envie de montrer un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de soi, sans toutefois aller trop loin. Enfin, ça, c'est ma vision de l'écriture. C'est aussi la liberté de se retrouver seul un moment et de se plonger dans l'écriture et de voir comment tout s'enchaîne, en fait, dans l'écriture. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette liberté qu'on a d'écrire ce qu'on veut, quand on veut et à qui on veut. J'espère à de nombreux lecteurs et lectrices.
Merci.
Alors, je vais lire le début du roman. Quand le tram bondé s'arrêta à la station Place du Cirque, Natalia, exténuée par sa journée de travail, eut toutes les peines du monde à se frayer un chemin pour descendre de la rame. Un grand black à la carrure imposante freina la vague des gens pressés, tous masqués, comme la loi l'exigeait en ces temps troubles de la Covid. 3 jours auparavant, un deuxième confinement avait été décrété par un gouvernement aux abois. À défaut de pouvoir sourire à Natalia, ce galant colosse lui fit un clin d'œil. Heureuse de respirer enfin l'air frais et humide du cours des 50 otages, elle traversa d'un pas alerte et assuré la place du commerce, où les bars et les restaurants avaient fermé leurs portes alors que les affaires commençaient juste à reprendre. Natalia fut saisie par le silence qui régnait dans toute la ville, croisant parfois quelques travailleurs, eux aussi masqués. C'était la règle pour tous. On ne pouvait plus voir l'expression des visages. Il fallait se munir avant toute sortie d'un précieux sésame, l'autorisation de déplacement domicile-travail. Sans cela, on risquait une amende de 135 euros. La Covid avait mis une nouvelle fois le pays à l'arrêt, mais on devait continuer à travailler, à étudier, à consommer dans les grandes surfaces, aux dépens des petites enseignes agonisant. Le peuple grondait, le pouvoir assumait ses décisions. Jusqu'à quand ?
Alors cette lecture introductive nous amène à notre deuxième question. Situer le roman au moment du confinement, est-ce qu'il y avait une intention particulière, Daniel ?
Oh, non, c'était simplement le fait d'avoir des flashs, ce que je disais tout à l'heure. Et aussi, j'ai reçu un SMS avec cette image d'un coucher de soleil. Et la future héroïne de mon roman disait c'est la première fois que je prends ce parcours pour me rendre chez moi. Enfin, ce qui n'est pas tout à fait chez moi. Et c'est effectivement, c'était pendant ce deuxième confinement du Covid. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas partir d'une histoire contemporaine que j'ai là, sous les yeux, le parcours de cette femme que j'ai essayé de retracer et puis après de faire évoluer de manière fictionnelle.
Merci. Alors, dans ce roman, rien n'est jamais écrit d'avance. Par une alternance de moments présents et de retours en arrière, nous faisons connaissance avec Natalia, une jeune femme mexicaine qui a quitté son pays pour vivre ses propres expériences et s'émanciper d'une famille un peu étouffante. Après un séjour de jeune fille au pair à Lannion, elle s'installe à Nantes pour reprendre des études universitaires tout en travaillant. Marc, figure paternelle, lui apporte son soutien et son amitié. Petit à petit, elle trace sa route professionnelle et amoureuse.
Alors, dans l'ouvrage, ce que l'on voit assez vite et ce qui est revendiqué par l'héroïne, c'est une farouche volonté d'indépendance. Ça, c'est en première lecture. Et puis en deuxième, on se dit, mais volonté d'indépendance, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une extrême autocentration, hein, c'est-à-dire où le seul objet de son désir, c'est elle-même. Et donc, voilà, avec la question qui va avec, c'est est-ce qu'on peut être l'un sans l'autre? Est-ce qu'on peut être indépendant sans être un peu, voire beaucoup autocentré?
Oui, alors ça part aussi de son parcours où, comme disait Martine tout à l'heure, elle étouffait dans son milieu et cette volonté d'indépendance, elle ne l'a eue en fait qu'aux alentours de 25 ans. Et il est vrai que cette autonomie, forcément, demande parfois beaucoup d'efforts pour cette personne et l'héroïne du roman. Et c'est vrai qu'elle doit se centrer sur elle-même pour se retrouver elle-même. Et c'est ça, quand elle est rentrée dans son 18 mètres carrés, elle m'a dit, c'est la première fois que j'ai un chez-moi, parce qu'elle a toujours été, et ce désir de liberté était plus fort que tout. Alors, est-ce de l'autocentration, comme tu dis, ou un désir farouche d'attraper cette liberté et aussi de la garder?
Merci. Alors, un peu dans le même esprit, c'est après, pareil, soit on la voit comme quelqu'un qui a le sens de la relation, parce qu'elle rencontre énormément de gens dans le roman. En revanche, chacune de ces rencontres lui permet d'accéder à des choses. Donc, un sens profond de la relation à l'autre ou une culture de l'opportunisme?
Ah non, je ne dirais pas une culture de l'opportunisme. En fait, elle souffrait ou elle souffre, je ne sais pas, de l'attachement aux autres. C'est-à-dire qu'elle a des amis et pour elle, ses amis, ce que je décris dans le roman, c'est sa propre famille. Et quand quelqu'un déménage, elle est un peu perdue, elle pleure. C'est une sentimentale, Natalia. Et donc, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai voulu un peu forcer le trait de Natalia.
Oui, mais effectivement, elle pleure quand ses connaissances déménagent, mais elle n'hésite pas à quitter ses connaissances pour déménager, pour aller ensuite vivre à Toulouse, pour partir aux États-Unis. Donc ça ne la gêne pas, apparemment, de laisser les autres en pleurs. si je peux dire.
Oui, oui, elle suit un peu sa trace, sa route. Elle a des objectifs dans la vie, elle a une soif de réussite et c'est vrai qu'elle a des hauts et des bas, mais elle ne perd jamais l'objectif d'être indépendante, de réussir sa vie. Et bien sûr, il y a des failles dans son parcours. Même si elle est brillante sur le plan universitaire, ses relations amoureuses ne sont pas au top, je dirais. C'est un mot familier, mais là, elle échoue quelque part par trop d'aveuglement ou en attendant trop de sa passion amoureuse.
D'accord. Écoutez, on va passer une première chanson, donc choisie par Daniel. du groupe, enfin c'est un groupe, oui, Vita et Slimane, ils sont
oui,
deux.
Oui, ils
voilà.
sont deux. Hein.
Voilà.
C'est un duo, quoi.
C'est un duo, on va dire. Le titre, c'est « Avant toi ».
Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur.
Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion.
Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Pas montrer le chemin.
Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais
le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour de toutes les façons.
Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie.
Avant toi, je n'avais le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Le chemin avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on m'a pas montré le chemin.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Daniel Bercheux pour son roman « Rien n'est jamais écrit d'avance ». Alors, pour revenir à ce qu'on disait à propos de ce personnage-là, Natalia, certes, elle trace son chemin, elle a envie de réussir, elle a envie d'indépendance. Elle est quand même très dure avec... Et comme tu disais, là, ses amoureux, elle leur parle d'une façon limite insultante quand même. Enfin, moi, je trouve.
Non, moi, je trouve qu'elle est directe, elle est sincère, elle est honnête, elle est cash.
Est-ce qu'elle accepterait que ses amoureux lui parlent comme ça?
Ah, elle a subi des revers aussi dans le roman et... Et je pense qu'elle l'accepterait aussi, oui.
Parce que je trouve qu'elle est limite insultante, quoi. Ouais. Elle traite ses... Enfin bon, c'est pas grave, hein.
Après, non,
elle fait
non,
ce qu'elle
non,
veut, hein, mais... Même avec sa mère, elle est dure.
Oui.
très dur.
Oui, bah, ça fait partie de cette, cette facette où, où justement, quand on a cet âge-là, on ne se rend pas compte qu'on est dur avec ses propres parents.
Et, ça, c'est...
et c'est un peu en, en vieillissant qu'on se rend compte que, effectivement, ne pas téléphoner à sa mère pendant un certain temps ou à ses sœurs, laisser sa famille de côté pour mener sa, sa voie, c'est aussi une sorte de revanche de cet étouffement qu'elle a subi et que moi aussi, quelque part, j'ai subi dans ma propre famille.
C'est vrai que ce n'est pas faux. Et quand on est parent, on se rend plus compte Voilà, on va parler de totalement autre chose, à moins que Florence... non.
Je reviendrai après pour une autre question.
Alors, donc moi je vais relire ces deux phrases, hein, deux, trois phrases on va dire. C'est à propos d'une publication, on va changer de thème hein, complètement, oui. D'une publication d'écrits de Natalia. Hein. Il avait fait un maximum de publicité et rameuté tous ses contacts sur les réseaux sociaux. La journaliste culturelle de Ouest-France avait fait un papier dithyrambique sur ce recueil de poésie intitulé « Attirance ». D'abord publié au Mexique en espagnol, il avait obtenu un prix national de poésie décerné par une académie littéraire de Mexico. Quand Natalia chercha à le diffuser en France, après l'avoir elle-même traduit, elle se heurta à l'intransigeance des éditeurs qui trouvaient ses poèmes pas assez aboutis, ne correspondant pas à l'ère du temps. Qu'en savaient-ils ces ignorants ? La poésie est universelle et peut traverser, comme son auteur, des mers, des frontières. Donc en fait, c'est à propos de ces difficultés que rencontrent finalement beaucoup d'écrivains sur la difficulté à trouver un éditeur et encore plus pour la poésie, quoi, qui est quand même...
C'est encore plus difficile, oui.
C'est encore plus difficile.
Mmh. Et je lisais récemment... un article de Christian Bulting et qui relayait une parole d'Éric Pessan qui a écrit La Tempête dernièrement et qui disait qui connaissait deux jeunes poètes qui ont pignon sur rue, qui ont des critiques, qui ont sorti des recueils et qui n'arrivaient même pas à se tirer un SMIC avec leur travail.
Et ah ben ça.
J'ai trouvé ce témoignage très émouvant parce que moi, l'écriture, c'est pas mon gagne-pain. Je suis complètement détaché du côté économique et je pense à ces auteurs qui rament, qui écrivent et qui sont pas sûrs de vivre de leur plume et qui lâchent tout parfois.
Mais est-ce qu'on peut faire une hypothèse qu'effectivement la question de la poésie, est-ce que c'est un genre très étudié déjà, par exemple à l'école ? Est-ce que c'est un genre porté ? De ma place, je n'ai pas cette impression-là. C'est-à-dire, on parle des nouvelles, des romans, de plein de types de genres. La poésie me semble presque confidentielle, confidentielle et élitiste. Est-ce que c'est des qualificatifs, peut-être, pour ce genre ?
Je suis d'accord complètement avec ton analyse. Et c'est vrai, c'est pour ça, en partie, que le slam de poésie, lorsque j'ai découvert un peu cet aspect liberté et puis... aussi porter cette parole en dehors de cercles poétiques, de maisons, de la poésie, de recueils confidentiels. Là, on s'adresse un peu à tout le monde dans un bar. On a une rigueur d'avoir un texte qui dure 3 minutes, écrit par sa propre plume sur un thème qu'on a choisi et sans contrainte... qu'impose parfois la poésie classique, je dirais. Et là, ça a un écho. C'est un écho. Ça porte, à mon avis, davantage. Et c'est pour ça que les jeunes se rapprochent plus de ce qu'on appelle le slam et que certains en écrivent. Certains jeunes de quartier en écrivent très, très bien et se révèlent à travers cette expression libre. Voilà. Et ce qui nous... bride un peu à l'école, c'est qu'on essaye de nous faire découvrir des auteurs alors qu'on n'est pas, pas assez mûr pour découvrir Victor Hugo, pour découvrir des poètes romantiques, enfin bref, voilà.
Le slam comme une éducation à la poésie, ça pourrait être ça l'idée, en tout cas une des pistes.
Oui, et beaucoup d'associations à Nantes, enfin deux entre autres, Les Lapins Plumes et Slam Poétrie, essaient de vulgariser cet art poétique.
D'accord, merci beaucoup. Alors peut-être pour revenir au roman, il y avait une question un peu qui nous occupait, c'est alors pourquoi cette histoire, hein, tu l'as dit en intro, c'est à la fois il y a des éléments de réalité, hein, quelqu'un que tu as connu, et puis après une partie un peu fictionnelle, mais l'héroïne, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, en fait est décrite, ou en tout cas nous on l'a perçue comme ça, comme faisant des choses assez extraordinaire, hein, c'est-à-dire voilà, elle reprend des études, elle va jusqu'au doctorat, elle postule pour une fac aux États-Unis, elle est acceptée, elle part relier Bâle en vélo. Hein. C'est pas des petites choses, c'est toujours des choses un peu importantes. Et a priori, elle réussit tout avec brio. Hein, donc on se dit, mais quel parcours. Est-ce qu'il y a un message derrière, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'on peut y voir quelque chose de tracer sa route, pas perdre ses rêves, même au prix de laisser des gens un peu sur le bord de la route, parce que c'est un peu le fil directeur, mais hein, elle épargne peu ses amis, peu ses amours, peu sa famille. Hein. Donc, je ne sais pas, tout à l'heure, tu disais, bah, c'est vrai que cette génération-là, hein, puisque c'est une jeune femme, 25 ans, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà. Alors, volontairement ou involontairement, quelque chose que tu voulais passer, en fait, dans l'écrit.
Oui, c'est un peu, pour moi, l'archétype de la jeune femme moderne. Alors, c'est vrai qu'elle déblaye pas mal tout ce qui peut la gêner dans son parcours, mais elle ne le fait pas d'une manière méchante, enfin voilà l'adjectif qui me vient, mais en fait elle est extrêmement indépendante, et c'est pour ça aussi que j'ai relayé un petit peu cet épisode où elle participe à la journée internationale de la femme le 8 mars. Et donc, où elle se fait suivre par, comme beaucoup de jeunes femmes, comme beaucoup de femmes dans la rue, par ces emmerdeurs qui pensent que bah, la femme est un objet et qu'il suffit de l'interpeller, de toujours la relier à sa beauté et qu'elle n'est qu'un objet qu'on peut facilement attraper dans la rue comme ça. Et donc, et bah, elle se révolte. Et c'est un peu cette révolte qu'elle a, Natalia, au quotidien, sur sa route. C'est vrai qu'elle réussit, mais elle réussit par sa force de travail. Elle travaille la nuit, elle travaille jour et nuit. Et quand elle a des objectifs, elle essaie de les atteindre. Alors c'est vrai que dans sa vie amoureuse, elle a subi des revers.
Il y a du dégât collatéral, on peut dire ça, on peut dire ça comme ça.
Et est-ce que du coup, la phrase que dit le personnage de Marc, à un moment donné dans le livre, je pense qu'il y a deux piliers dans l'existence, les relations sociales et l'action.
Oui.
Est-ce que ça ne résume pas finalement voilà, quoi, je sais pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça résume un peu aussi mon point de vue d'auteur, de ce que je suis actuellement, de voir la vie qui passe. Et que si on ne met pas des choses devant soi, si on n'agit pas, et si on ne se met pas en relation avec les autres, eh ben, on a toutes les chances de se refermer sur soi, d'être solitaire, de déprimer. Et puis, moi, ce qui m'a plu, justement, c'est cette ouverture que j'ai eue petit à petit grâce à des rencontres et qui m'ont amené parfois à écrire sur ces thèmes-là, quoi.
Merci Daniel. Une autre question peut-être, alors forcément quand on lit un ouvrage, c'est toujours partiel et partial, on a des angles de vue puis des angles morts. Donc peut-être la question sur toi, est-ce que tu avais envie de dire quelque chose de particulier sur ton livre auquel on n'aurait pas pensé, qui n'a pas retenu notre attention ?
Non, vous avez relevé certains angles particuliers et ça fait du bien pour un auteur d'avoir des retours parce que, en fait, les lecteurs, bon, le livre est diffusé, on en vend dans des salons, etc. Mais Oui, c'est vrai que j'ai eu ce retour de deux, trois lectrices qui m'ont dit « Ah oui, elle réussit tout, c'est une super woman, voilà. » c'est vrai, mais il y a bien des superman, donc il y a des super woman.
C'est vrai, et ça existe.
Ça existe, et j'ai voulu... j'en ai rencontré une, et j'ai voulu, certes, un peu forcer le trait.
Témoigner,
voilà.
D'accord, bah c'est un bel hommage jeunesse.
Et puis, c'est un peu dans la veine MeToo. Voilà, c'est-à-dire que voilà, la jeune génération, elle se rebiffe, pas seulement à travers mon héroïne, mais c'est plein de femmes qui se laissent plus faire et qui ont envie de montrer ce qu'elles savent faire, et, au même titre que les hommes.
Et on peut que s'en féliciter. Est-ce que tout à l'heure, on a commencé l'émission en disant que tu étais prolixe. Ton actualité, Daniel, aujourd'hui ?
Alors, mon actualité, c'est d'essayer de parler de ce troisième roman. C'est aussi de faire vivre un petit recueil de poésie nouvelle et histoire courte. Et puis, un conte pour enfants. Alors, j'ai sous le coude un autre récit d'un grand-père qui aime le jardinage et qui souhaite transmettre cet amour du jardinage à ses petits-enfants. Et le temps passant... Et donc, je lance un appel parce que je cherche une illustratrice qui serait capable de traduire cet univers du jardin entre un grand-père et ses deux petits-enfants qu'il voit à chaque période de vacances et avec les saisons qui passent et le temps aussi qui passe.
D'accord, donc plutôt un livre qui s'adresse aux enfants
ou... Oui, 7-12 ans celui-ci,
d'accord,
à peu près.
Donc le message est lancé, il faut qu'il soit entendu. Alors, pour finir, Daniel a choisi la magnifique chanson de Léo Ferret, Avec le temps.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien.